Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une intrigante histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapanet, légiste à Poitiers, Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste, disponible chez Pocket. L'histoire d'une jeune femme que l'on retrouve nue et morte dans la forêt. On croit naturellement à un meurtre sexuel, mais le légiste va proposer une autre hypothèse. C'est une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec le docteur Sapanet en personne. J'ai écrit ce récit avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Il fait nuit et je rentre d'un congrès. Un congrès international en anglais organisé en France. C'est rare. Sur le thème des histoires exceptionnelles de médecine légale. Et j'ai encore dans la tête l'une de ces histoires. Un gars qui s'est construit sa propre guillotine et qui l'a d'abord essayé sur des moutons avant de l'utiliser sur lui-même. Pour se suicider. Il est 1h du matin. Je roule depuis 5h. Je vais m'arrêter boire un énième café dans une station service. J'ai à peine coupé le moteur que mon téléphone portable sonne. À cette heure-là, je n'ai aucun doute sur l'origine de l'appel.
Bonsoir, docteur. C'est la gendarmerie de Lussac-les-Châteaux à l'appareil. Je suis désolé de cet appel tardif, docteur, mais on a besoin de vous pour une affaire, disons, un peu particulière. Je vous passe le directeur d'enquête. Bonsoir, docteur. Bon, voilà. On a eu une disparition il y a 8 jours. Une jeune femme à la vie, disons, un peu agitée, fan de bar et de boîte de nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Alors au début, bon, on s'est pas trop inquiété, quoi, parce que elle avait l'habitude de partir comme ça quelques jours. Et en général, on l'a retrouvée bien imbibée et plus ou moins amnésique. Mais là, on l'a retrouvée morte, hier soir. Complètement nue, en pleine nature. Bon, ça sent à plein nez l'agression sexuelle. Hein. Elle a de drôles de lésions sur le pubis, vous verrez. Bon, on est sur la scène de crime, là, depuis un bon petit bout de temps. Alors, je sais que c'est une heure un peu tardive, mais il pleut. Et donc, on a posé une bâche. Si vous pouviez venir sans tarder...
Là, tout de suite, ça va pas être facile. Hein. Je rentre d'un congrès. Je suis à... 2 heures de route de Poitiers, là. Appelez mes confrères.
Non, docteur, non. C'est une histoire tordue, c'est ce genre de truc qui fait que on vous veut, vous.
Vous êtes flatteur. Mais bon, c'est pas raisonnable. J'ai 600 kilomètres dans les pattes, là. Pas ce soir.
Et si on gèle la scène de crime jusqu'à demain matin, ça vous va?
Ah! Vous tenez vraiment à m'avoir, moi, hein? Bon, ben, ok. Demain matin, mais pas avant 10h, hein. Le temps que je m'organise. Le lendemain matin, réveil en fanfare. Petit déjeuner en famille, ça j'y tiens. Et ensuite, je vais à l'hôpital pour récupérer mon équipe. On y va à 4. Sophie, ma secrétaire, l'externe en formation et le stagiaire juriste, deux beaux gosses que Sophie appelle Brad et Pete, et moi. Direction le fin fond de la Vienne. À un rond-point, on arrive à une route barrée par un gendarme. Bonjour. Je suis le docteur Sapanet, je suis le médecin légiste. Ah, docteur. On vous attendait. Bon, on a barré la route pour vous depuis hier soir. Au loin, je vois une longue file de voitures bleues à gyrophare. On est arrivé. Et il y a du beau monde, hein, signe que l'affaire est grave. La substitute du procureur est là, la juge d'instruction, sa greffière, des gendarmes du coin et des gendarmes de la brigade de recherche, et même le maire. Le directeur d'enquête me refait son topo de la veille. Bon, d'abord c'est bien elle, hein. On l'a identifiée grâce à ses papiers... La famille avait signalé sa disparition, ils avaient mis des affiches un peu partout. Bon voilà, c'est une fille de type européen, vous verrez, une trentaine d'années. Bon, c'est sexuel, hein, comme histoire a priori, et puis Vu l'endroit où on l'a retrouvé, enfin vous comprendrez, mon ami, le gars qui l'a découvert en garde à vue, vous comprendrez tout quand vous serez sur place. Bien, on approche là, il va falloir descendre. On a posé une corde. Alors tous ceux qui vont approcher le corps, bon ben vous vous équipez maintenant. Et les autres, vous pouvez rester sans protection, mais vous ferez que regarder. La substitute du procureur et mon stagiaire juriste se contenteront de regarder. Je me demande s'ils sont pas en train de se dragouiller, ces deux-là. Bref. En tout cas, Sophie et moi, nous nous mettons en tenue. Combinaison intégrale blanche, calot de protection sur la tête, des gants, un masque. Et nous quittons la route et nous nous engageons sur un talus qui descend d'abord en pente douce et puis de plus en plus raide. Et comme le terrain est moussu et qu'il a plu, c'est une vraie patinoire. La substitute du procureur doit regretter ses talons aiguilles. Et ça fait bien marrer les gendarmes. Et on arrive au fond d'un petit ravin. Bon, là, il y a un petit mur à descendre. On a installé un rappel, hein. Les gendarmes goguenards doivent descendre la substitute au harnais. Et nous voilà dans le lit d'un ruisseau. On passe un bosquet d'ifs et de buis gigantesques. Et on arrive devant la scène de crime. Le corps, nu, d'une blancheur absolue, comme crucifié sur un rocher noir. Un corps dans une position très frappante, très frappante. Ses jambes sont repliées sous elle. Le talon gauche est au contact du pubis et l'autre talon est sous sa fesse droite. Ses bras sont écartés, à l'horizontale. Elle a une chevelure rousse, flamboyante. Sa tête est rejetée en arrière et sa bouche et ses yeux sont grands ouverts. Et donc sur le pubis, il y a une tache noire en forme de cœur. Assez grande, hein, elle fait bien la surface de deux mains. Une tache avec des contours rouges. Il y a quelque chose d'un tableau de Goya dans cette image. Goya, le peintre des souffrances humaines. Ils le savent autour. J'ai besoin de solitude pour m'imprégner des lieux, de l'ambiance des alentours. Alors je marche le long du ruisseau, je regarde autour. D'après les gendarmes, c'est par là que la victime et son assassin sont arrivés. Je prends un premier cliché général, et partout il y a des indices. Les gendarmes ont posé des petits chevalets jaunes avec des numéros. Ici par exemple, une chaussure de femme. Je continue d'avancer vers le corps. Chevalet numéro 35, un sac à main ouvert et renversé.
Ah docteur, voilà ce qu'il y avait dans le sac. Avec la pluie, on a préféré le mettre sous scellé.
Une ordonnance, avec le cachet de la pharmacie, donc les médicaments ont été délivrés, et aussi des plaquettes de médicaments, et puis un petit carnet, et des préservatifs, dont un emballage ouvert.
Et vous avez retrouvé la capote ?
Non, non, on a tout fouillé. Dans un rayon de 200 mètres, introuvable.
Sophie, vous pouvez recenser la liste des médicaments, s'il vous plaît ?
On vous a déjà préparé la liste, hein, docteur. C'est une liste longue. Je suis en train de la lire, quand la voix du directeur d'enquête me fait sursauter.
Alors, docteur, son pubis. Vous avez vu son pubis ?
Il a l'air de s'accrocher à son hypothèse de crime sexuel. Et donc je me penche, je regarde, les grandes lèvres sont gonflées, et elles sont noires, elles aussi. Mais pas desséchées, plutôt humides et suintantes. Et ce que je vois surtout, ce sont des asticots. Ça grouille. Et vu la taille de ces asticots, ce corps est là depuis plusieurs jours. Mais je ne dis rien, je garde tout ça pour moi. En médecine légale, il ne faut jamais parler trop vite.
Docteur ! On a mis de côté quelques bouteilles. Des bouteilles pour l'apéro ?
Non, docteur, non. Ce
sont des bouteilles qu'on a retrouvées en remontant la piste.
Donc on a 2 bouteilles de tequila, 3 de gin et 5 bouteilles de vodka. Elles sont toutes vides. D'accord. Je me concentre à nouveau sur le corps. Il est couvert d'ecchymoses et d'hématomes, en fait. Il y en a sur les 2 bras et sur les 2 cuisses. Mais ça ne ressemble pas à des coups, ni à des traces de contention forcée, quelqu'un qu'on aurait maintenu de force. Et pas non plus de traces de strangulation, et pas de plaie. J'ai une idée, mais je ne la dis pas. Bon, alors résumons, docteur. Elle a été vue vivante la dernière fois, le 6 septembre, ok? On l'a retrouvée morte hier, 3 octobre, vers 17h. On est le 4 aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu une idée de la date du décès? Eh bien, ça va manquer de précision, hein. Il faudrait donner les asticots à un entomologiste qu'ils nous disent. Mais bon, je dirais un décès autour du 28 septembre. Ça vous laisse un petit choix, 27, 28 ou 29. Avant et après, j'y crois pas. Il est temps de passer à la suite. Avec Sophie, nous emballons la tête et les mains dans des sacs de papier Kraft pour ne rien perdre pendant les manipulations. Tiens, elle a les ongles cyanosés, très cyanosés. Allez, ok, on la soulève. On la pose sur un drap blanc, sur le ventre. Oh ! Tout le bas du dos est putréfié et bourré d'asticots. En revanche, aucune plaie, aucun hématome sur le dos et sur la nuque. Mais des griffures superficielles sur le dos, les fesses, les genoux, les jambes et les avant-bras. Le genre de griffure qu'on se fait dans des taillis. Sauf que là, toute nue dans des taillis, il y en a qui aiment ça sans doute, hein, se balader à poil dans la forêt. Tiens, j'ai une idée. Je la garde pour moi, mais j'ai une idée. Bon, je n'apprendrai plus rien sur place. Il est 14h, et avant de nous séparer, le chef d'enquête revient vers moi.
Docteur, je suppose qu'il faut attendre pour en savoir plus. Écoutez, je sais pas si c'est un crime sexuel. Ça peut le faire croire, hein. Ça peut l'être, hein. Mais franchement, il n'y a rien de sûr, hein. Et pour les certitudes, il va falloir attendre l'autopsie. Bon, d'accord. En attendant, je vais relâcher le promeneur qui a découvert le corps, hein. Je vois pas l'intérêt qu'il avait à nous amener sur les lieux de son crime.
Le corps, rapatrié dans nos locaux, est entièrement passé au scanner. Et le voilà posé sur la table d'autopsie. J'examine les clichés. Rien d'anormal, aucune fracture. Et donc je passe à l'examen externe que j'ai déjà réalisé sur le terrain, mais une fois sur la table, à la lumière, des détails peuvent apparaître. Je regarde à nouveau la peau sur toute la surface. Ensuite, je fais ce qu'on appelle des écouvillonnages sur les surfaces de prise. Je passe un grand coton-tige sur les endroits où l'agresseur a pu laisser des traces. Un violeur, en général, ça immobilise sa victime par les poignets, les bras, les chevilles, le cou. Il y a forcément de l'ADN. Ensuite, j'inspecte le dessous des ongles. Rien. La phase suivante consiste à rechercher des hématomes qui seraient invisibles sur la peau. Et là, j'ai décidé de faire un écorché complet.
Bistouri, je vous prie.
Je fais de grandes incisions sur tous les membres. Je glisse la lame de mon bistouri entre la graisse et le muscle, et je la décolle entièrement. Je ne trouve pas le moindre bleu sur la face profonde de la peau. La suite est plus classique.
Bistouri ?
Je fais une incision profonde du menton jusqu'au pubis. Au niveau de la tache sombre, la peau est dure comme du vieux cuir. Mais en profondeur, aucune trace de coup. Aucune. fois découpé les côtes, je retire un à un les organes, et notamment le foie et les poumons. Et ensuite, le cerveau. Et je les pèse. Tout est anormalement lourd. Et quand j'ouvre les poumons, il y a un œdème important, avec une mousse rosée dans les bronches. Et la vessie est pleine à craquer. Tout ça me conforte sur la piste d'une intoxication. Ce qui est, depuis le début, mon hypothèse silencieuse. À cause de la quantité de médicaments dans le sac, et à cause des bouteilles. Dans l'estomac, je ne retrouve qu'un tout petit peu de liquide gastrique, comme chez quelqu'un à jeun. Avec tout de même d'étranges petites feuilles. Trois feuilles arrondies, des feuilles de buis, et d'autres petites feuilles, plus étroites, plus longues, plates et luisantes. Et aussi des petites boules noires. Et ensuite j'ouvre l'œsophage sur toute sa longueur, et j'y trouve les mêmes feuilles. Bizarre. Bon, allez Marie, c'est à vous. Vous avez vu la technique plusieurs fois. Hein. Vous allez extraire les organes génitaux. Je vous laisse faire. Allez-y. Son bistouri part de l'arrière de l'anus. Il fait le tour des grandes lèvres. Et là, il ne reste plus qu'à extraire d'un seul mouvement tout l'appareil génital. Elle le pose sur la table de dissection. Et ensuite, elle fait des prélèvements. On cherche du sperme, bien sûr. Si elle a été violée, on aura donc l'ADN du violeur. Et enfin, coup d'œil du côté de l'utérus et des ovaires. Pas de grossesse en cours. Autopsie terminée. Et je n'ai aucune cause de la mort à proposer. Aucune. La journée a été rude. Quand j'arrive à la maison, les enfants sont déjà couchés. Je me sors une de mes terrines favorites, du cerf avec des fruits secs. Et je m'assoupis tout doucement devant le feu qui crépite dans la cheminée. Et je me réveille d'un coup en sursaut, couvert de sueur, avec dans la tête un flash. Je l'ai vu dans ce petit vallon, crucifié sur son rocher. Et les jours passent, et les gendarmes poursuivent leur enquête. Ils reconstituent son itinéraire dans les jours qui précèdent sa disparition. Ils n'ont aucune piste. Et moi, j'ai repris mon activité ordinaire. Mais cette histoire me tracasse. Au point, d'ailleurs, que j'en fais des rêves étranges. Et des rêves à répétition. Toujours les mêmes. Je me revois enfant de cœur. Dans mon petit village, le jour de la fête des rameaux. Le curé est là, en soutane. Et moi, je tiens une branche de buis entre les dents. Et le curé se précipite vers moi, il me hurle quelque chose d'incompréhensible. Ma conscience me travaille. Et puis arrive ce qu'on appelle la toxicologie, c'est-à-dire les analyses de tous les liquides. Et elle n'est pas banale, hein. Bon, d'abord, le sang prélevé a coagulé, ce qui le rend inexploitable. Ensuite, les urines. Le toxicologue a trouvé de la carbipramine à très forte dose. Et ça, c'est le principe actif du médicament utilisé pour traiter l'anxiété et les troubles psychotiques. En revanche, il n'y a pas d'alcool. Et il n'y a pas de stupéfiants non plus. Je commence à comprendre ce qui est arrivé à cette gamine. À partir de là, c'est une autre histoire qui se dessine. Une autre histoire qu'un viol, une autre histoire qu'un meurtre. Elle est déprimée, elle est anxieuse, trop anxieuse, et elle prend son médicament en grande quantité, en trop grande quantité. Et du coup, elle est perdue, elle est incapable de s'orienter, elle entre dans une errance sans fin. Et elle suit donc ce petit ruisseau. Au passage, elle sème ses chaussures et puis ses habits. Elle bataille avec les branchages. Et ensuite, elle glisse sur la mousse humide jusqu'à heurter ce gros rocher. Et elle meurt d'un surdosage de son médicament. Voilà mon hypothèse. même s'il reste des interrogations, quid des bouteilles d'alcool? Qui sont à elle, hein? On a retrouvé dessus ses empreintes. Disons qu'elle a peut-être passé quelques jours à boire dans ce petit vallon. L'alcool aussi est un anxiolytique. Et qu'après, elle a absorbé ses médicaments. Mais du coup, que viennent faire mes rêves là-dedans? Mes rêves de curé, qui me sautent dessus parce que j'ai une branche de buis dans la bouche. Et d'un coup, je me souviens de ce que le curé me dit. « Jette ça, petit malheureux. Tu vas t'empoisonner. » Et là, je me précipite vers mon bureau. J'ai un livre. J'ai un livre sur les plantes toxiques. Et ce livre me confirme que le buis est un poison. C'est un poison. Et l'if aussi est un poison. Et l'if correspond parfaitement aux petites feuilles étroites que j'ai identifiées dans son estomac et son œsophage. Et donc dans son délire, cette jeune fille a également mangé des végétaux hyper toxiques. Alors quant à savoir lesquels des toxiques végétaux ou médicaux l'ont tué, ça je ne sais pas. Ça restera une interrogation. En tout cas, c'est certain, elle n'a pas été assassinée. Elle n'a pas été non plus violée. Elle est morte empoisonnée au cours d'une crise de folie. En tout cas, depuis, mes rêves d'enfant de cœur ont disparu. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Sapané, « Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste », disponible chez Pocket. Demain, une autre histoire de médecin légiste.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.